Bonjour à tous, vous êtes sur le mug numéro 100, oui j'ai bien dit le numéro 100, c'est l'édition spéciale, on est sur la chaîne principale aujourd'hui, c'est vendredi 14 février 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette Saint-Valentin. Donc déjà, un gros bisou à tous. Hein, ça va être la journée des bisous. On se fait tous des bisous dans la chatroom. C'est l'édition spéciale. On est là le vendredi. Alors pour ceux qui nous retrouvent comme ça sur la chaîne principale, ils se disent « Mais c'est quoi ce truc ? On voit des numéros, mais ils vont pas ensemble. » Il faut savoir que cette émission, on les fait tous les matins de la semaine. Mais du lundi au jeudi, c'est sur la chaîne secondaire. Nowtech Live, et le vendredi, on se retrouve tous sur la chaîne principale. Donc, si le concept vous intéresse d'avoir comme ça une revue de presse de la technologie, n'hésitez pas à suivre la chaîne secondaire, donc Nowtech Live, pour nous retrouver tous les matins à 8h. J'ai eu un doute. Alors, vous m'avez mis une pression monumentale pour ce numéro 100. Je l'avais pas vu arriver, je n'ai rien préparé. J'ai quand même pris du coup, un peu à l'arrache, hein. Une petite bouteille, on va faire peut-être un petit bouchon. Alors, c'est pas du champagne, hein, parce qu'il est 8h du matin. J'ai failli prendre du... merde, comment ça s'appelle, là, le truc pour... Champomy. Mais alors, c'est bourré de sucre, c'est dégueulasse, ce truc. Donc, quand même, j'ai pris un cidre de Normandie, hein, cidrerie de Livaro. Hein, on va se faire péter le cidre pour le numéro 100. Et puis après, on démarrera, parce qu'en plus, bien évidemment... On a un programme bien rempli. Allez, on va faire péter le champagne, tout ça, enfin le champagne. On va faire péter le cidre tous ensemble. Donc vous êtes prêts à verser votre café? Et voilà, hop, la centième. Alors j'en profite aussi, attendez, je remplis mon mug, mais j'ai un mug un peu spécial aujourd'hui et je voudrais vous en parler. Est-ce que j'ai le petit papier de la personne qui me l'a envoyé pour pouvoir le citer? Oui, c'est David. David qui nous a fait un super cadeau. Il m'a envoyé ce mug-là que je vous montre. Jérôme, l'homme, le mythe, la légende. Je crois que ça résume bien les choses. Merci beaucoup en tout cas David, il nous a même mis un petit poème. Et voilà, emmitouflé dans son petit carton, face à toi, tel un chaton, attendant depuis plusieurs jours, patiemment, que tu ouvres le colis et que tu lui donnes plein d'amour. Eh bien, écoute, en cette Saint-Valentin, je te transmets plein d'amour, David, et merci encore pour ton super mug. Alors, je vois qu'il y a déjà un début de polémique. Il n'est pas breton, le cidre. J'aimerais vous rappeler, hein, si vous n'y connaissez pas en histoire du cidre, que la polémique sur l'invention du cidre n'est pas entre la Bretagne et la Normandie, mais entre la Bretagne et le Pays Basque. Hein. Alors, informez-vous, les Bretons ont inventé plein de bonnes choses, mais pas le cidre. Boum! Et là, je viens de me mettre à dos tous les Bretons. Et tous les Basques. Et allez, hop! Allez, un petit coup pour la centième et on va démarrer tout de suite avec les news. Comme d'habitude le vendredi, il va y avoir un petit récap de la semaine, des news qu'il fallait pas rater. Et ensuite, on aura toutes les news du vendredi et on a un vendredi bien chargé. À la vôtre. J'adore les Bretons qui disent « on a sublimé le cidre ». Allez, on démarre tout de suite. Hop, attendez, je dois juste faire un petit réglage parce que je ne voyais pas bien la chatroom. Et voilà, on va pouvoir commencer les news. Donc, on va faire un petit récap. Il est bon, ce cidre. On va faire un petit récap. Oui, non, il est très bon. On va faire un petit récap des news de la semaine. On va essayer de ne pas se laisser déconcentrer. Hein, si je termine bourré avec 2,5 degrés d'alcool, eh ben, hein, ok, boomer. Hein. Ce qu'il fallait retenir de la semaine, Apple va payer une amende de 25 millions d'euros en France à cause des iPhones ralentis par une mise à jour d'iOS. On en avait parlé en 2017. Effectivement, cette fameuse histoire des iPhones qui étaient ralentis, on avait, en fait, c'était une fonctionnalité. Remettons les choses à leur place. Apple avait bien prévu le coup. Ils ralentissaient le système pour les batteries usées, pour pas risquer des arrêts impromptus des smartphones, des iPhones qui avaient une vieille batterie. Et ce qu'il leur est reproché, c'est pas de faire de l'obsolescence programmée, contrairement à ce que certains titres de presse se sont trompés, empressés de tromper de dire. Ce qu'il leur est reproché spécifiquement et pourquoi ils doivent 25 millions d'euros, c'est pour le manque de transparence et d'information vis-à-vis des consommateurs. C'est-à-dire, à sa grande habitude, Apple a fait un truc qui n'était pas forcément con et plutôt bien en termes d'obsolescence. Mais ils n'en ont pas informé les consommateurs et surtout ils l'ont imposé comme réglage. On aurait aimé pouvoir désactiver ce réglage et pas se le faire imposer. C'est pour ça qu'ils ont l'amende et pas parce qu'ils mettent des batteries qui vieillissent trop vite, comme je l'ai entendu dire, à des terrasses de café. On continue dans les news de la semaine, les rumeurs autour du possible iPhone 9, l'iPhone budget, il serait peut-être, en tout cas, trois sources confirment qu'il serait à $399, ce qui le mettrait à 489 €, puisque nous, on a la TVA, ne l'oublions pas, qui est directement citée dans les prix, c'est pas le cas des prix en dollars. C'est exactement le même prix que l'iPhone SE quand il était lancé en 2016. Donc, ça serait intéressant. Merci, MacPaddy, pour ton super chat. Ça serait le même prix, ça serait intéressant à voir ce que Apple va sortir de son chapeau. Il n'y avait pas qu'Apple, les grosses news de cette semaine, c'était autour de Samsung. Samsung qui a dévoilé un Galaxy Z Flip, un smartphone pliable, mais dans le sens Game Boy, on va dire. Avec la grosse nouveauté, c'est que ça va être du verre très très fin, le revêtement souple. Donc ne me demandez pas comment faire du verre souple, je n'en sais rien. Mais ça devrait être plus agréable que les sensations qu'on avait avec le Fold que j'avais testé sur la chaîne, qui avait ce rendu quand même un petit peu plastique. Est-ce que je le testerai sur la chaîne ? Peut-être, peut-être pas, on verra, ça dépend si Samsung m'en prête un ou pas. Ils ont également lancé, bien évidemment, le S20, le S20 Plus et le S20 Ultra, toute une gamme de S20. Donc, ils ont décidé de passer du S10 au S20, hein, comme ça, c'est fait, 10 ans d'avance. Smartphones qui, dans les spécifications, sont super intéressants. Un design un petit peu plus sage que les autres années, et c'est peut-être pas forcément un tort. Moi, j'ai jamais été un fan des écrans hyper recourbés des Galaxy. Au niveau photo, des choses qui vont être intéressantes à tester, avec notamment sur l'Ultra un capteur de 108 mégapixels, un zoom x10 si je me trompe pas en optique, et alors ils promettent du x100 en numérique. Ça va être très intéressant à tester. Pour moi, c'est une erreur. Je l'avais déjà expliqué pourquoi. Je pense que Samsung a mordu à l'hameçon de la guerre de la fiche de spec. On verra. Si on arrive à sortir une photo exploitable en zoom x100, je dirais que ce n'est pas du bullshit. Mais j'ai bien peur que ça soit du gros bullshit, comme ça a déjà été fait par d'autres marques qui ont promis des zooms x50, etc., mais qui donnaient des images inexploitables. On en reparlera très probablement sur la chaîne. Également, dans les petites news, il y a Patreon qui va enfin débarquer en Europe, en tout cas vraiment officiellement, avec un nouveau bureau à Berlin et surtout la possibilité de faire du Patreon en euros. Donc c'est vrai que ça risque d'être un coup de semonce pour les concurrents locaux que sont Tipeee, Utip, etc. Patreon, c'est un peu le patron en termes de crowdfunding de contenu régulier. Est-ce que nous, la chaîne, on va passer sur Patreon ? On va faire des essais. Ça va pas être tout de suite, donc ne vous emballez pas. Mais effectivement, Patreon a quand même une plateforme, je le dis, hein, parce que c'est ce que je pense, qui est largement en avance sur tous les autres systèmes de crowdfunding. Et j'aime beaucoup le boss de Patreon, Jack Conte, qui est lui-même un artiste du groupe Pamplemousse. Et j'aime beaucoup sa démarche. Cela est dit. Également, dans les mauvaises nouvelles pour le cloud gaming, Nvidia GeForce Now a perdu la possibilité de streamer les jeux Activision Petit rappel, GeForce Now, ça marche comment? Vous pouvez jouer avec vos jeux, mais à partir du moment où ils sont compatibles avec la plateforme GeForce Now. Donc, on est à l'intermédiaire entre ce que fait Nvidia, qui est vraiment une console propriétaire où le jeu doit être développé pour la Stadia, pardon, pour Stadia. Après, à l'autre bout du spectre, vous avez le Shadow PC, dont on parlera tout à l'heure puisque c'est notre sponsor, qui est plus du cloud computing que du cloud gaming, mais qui permet de jouer justement sur le cloud. GeForce Now est au milieu, mais c'est vrai que si les acteurs du jeu vidéo commencent à retirer les droits à GeForce Now de streamer leurs jeux et des mastodontes comme Blizzard, c'est pas très bon pour GeForce Now. Et c'est difficile à comprendre, même si c'est probablement une histoire de gros sous. Activision Blizzard fait beaucoup d'efforts pour être la pire entreprise en ce moment. C'est vrai qu'ils n'ont pas, par rapport aux années où on admirait Blizzard comme la meilleure boîte de jeux vidéo au monde, ça souffle chez Blizzard. Ah, elle est nulle. Okay. Je continue. La grosse news également qu'il fallait retenir cette semaine, c'est le Mobile World Congress qui, après une succession d'abandons marque par marque, jette l'éponge. Il n'y aura pas de Mobile World Congress cette année. C'est con, c'est la première année où je décidais d'y aller. Donc je n'irai pas, c'était la news. Non, c'est triste, c'est effectivement pour des raisons de coronavirus, puisque quand même un salon, c'est hautement volatile. Il y a déjà un début de polémique, certains disent, il n'y a pas que le problème du coronavirus, c'est en pleine guéguerre Chine-États-Unis autour du mobile, il y aurait des pressions, etc. Donc il y a des polémiques, c'est triste notamment pour Barcelone, hein, parce que ça fait quand même un gros manque à gagner. Et c'est vrai que tout un tas d'annonces qui devaient se faire quand même au Mobile World Congress, ne vont pas se faire, ce qui risque d'augmenter le problème du Mobile World Congress, qui était que les constructeurs de smartphones commencent à annoncer de plus en plus leurs smartphones en dehors du Mobile World Congress. Merci beaucoup One Deep Sweet pour ton super chat. Alors c'est qui le Patreon? Exactement. Voilà, c'était un petit peu le récap de ce qu'il fallait retenir pour la semaine. Et Patreon est déjà en euros. Alors, juste pour revenir sur cette news, il est déjà en euros pour ceux qui ouvrent un compte Patreon aujourd'hui en Europe. Pour ceux qui avaient déjà un Patreon avant, ça va arriver. Mais effectivement, ça fait 2 jours qu'ils sont en euros. Là, je fais le récap des news de la semaine. Allez, un petit peu de bon cidre. Parlons des news de ce vendredi, parce que la tech ne s'arrête pas le vendredi, hein, et il y en a beaucoup aujourd'hui. On va d'abord, puisque c'est la Saint-Valentin, parler de Facebook Dating. Facebook Dating, c'était la énième tentative de Facebook de tuer un concurrent, et le concurrent en ligne de mire, c'est bien évidemment Tinder. Facebook s'apprêtait à lancer aujourd'hui, jeudi 13 février, Facebook Dating en Europe. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Puisque la commission irlandaise de la protection des données vient d'annuler son déploiement, estimant que Facebook n'a pas fourni les documents nécessaires aux autorités européennes pour développer cette plateforme. Facebook Dating et tiens, vous avez fait une faute de frappe, siècle digital. Vous avez mis Facebook Daring. Non, c'est Facebook Dating. Lancé aux États-Unis en septembre 2019, l'application Facebook Dating s'appuie sur les données de ses utilisateurs pour les faire matcher du mieux possible. Les utilisateurs peuvent ajouter leurs publications dans leur profil, mais aussi désigner un secret crush dans leurs abonnés. Est-ce que je vais avoir des secret crush? Je m'en tape, mais alors vous pouvez même pas imaginer. Si j'étais vulgaire, ce que je ne suis pas, je dirais que je m'en bats les couilles tellement fort que tu me mets dans l'eau, je fais le hors-bord. Mais comme je suis pas vulgaire, je me permettrai pas de dire ça dans un direct en live, quoi. Faut quand même, attention, on va pas respecter un petit peu, pas être vulgaire. Facebook veut récupérer les jeunes. Tu sais, les vieux, ça marche bien aussi hein, sur les plateformes de dating. Hein. Vu les taux de divorce, il y a du vieux sur le marché aussi. Bref. Alors, Facebook, en fait, s'y est pris comme un pied, puisqu'ils n'ont envoyé à la Commission européenne de la protection des données leur dossier que le 3 février pour un déploiement le 13 février. Messieurs, en Europe, on ne fait pas les choses en 10 jours non plus. Non, je déconne, mais partout dans le monde, on ne fait pas ce genre de truc en 10 jours. Bon, c'est presque une forme de mépris d'envoyer les choses au dernier moment. Alors, bien sûr, le porte-parole de Facebook rebondit en disant « Non, non, mais c'est très bien, c'est pas grave, on ne se lance pas le 13 février. Il est effectivement important que le lancement de Facebook Dating se passe bien. Nous prenons donc un peu plus de temps. » Genre, nous prenons Facebook un peu plus de temps. Non, c'est la commission qui vous dit que vous ne sortirez pas le 13. Pour nous assurer que le produit est prêt pour le marché européen. Pourtant, nous avons travaillé dur pour mettre en place des garanties solides en matière de protection de la vie privée, ainsi que pour achever l'étude d'impact sur le traitement des données avant le lancement en Europe, que nous avons partagé avec l'IDPC lorsqu'il nous en a été fait la demande. Bon, donc, Facebook Dating arrive, il n'arrivera pas pour la Saint-Valentin. Il faut effectivement, on peut légitimement se poser la question, Facebook c'est avant tout une grosse machine publicitaire, comment ils vont se servir des données de Facebook Dating, on est en droit de se le demander. On peut être tenté de passer un peu en force en disant hey, on sort dans 10 jours, alors regardez et validez, ouais c'est un peu ça quoi. C'est hop, et signe le contrat, dépêche-toi, allez, signe. Mais non, tu vas pas lire, t'inquiète, j'ai rien mis dedans. Vas-y, signe. Hein ? On la fait pas aux Irlandais, ça. Aucun intérêt Facebook Dating, je suis pas d'accord, le tutoriel. À mon avis, avec Facebook Dating, Facebook a le potentiel de refaire le coup d'Instagram vis-à-vis de Snapchat. Ils ont une base d'utilisateurs énorme. N'oubliez pas que si vous n'utilisez plus Facebook, parce que comme moi, c'est une plateforme que j'aime plus, ou que j'ai jamais vraiment aimé, que j'ai toujours trouvé l'usine à gaz, en fait, on est une minorité. Facebook est énormément utilisé, continue à recruter énormément d'utilisateurs, et est très 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 utilisé. Et ceux qui me disent qu'il n'y a que des vieux sur Facebook, en même temps, les vieux, le dating, hein, y a du business à faire. Merci Philippe pour ton super chat. On n'est jamais d'accord, mais c'est pas grave. Mais c'est toute la beauté d'une chatroom, le tutoriel, que cordialement, nous ne soyons pas d'accord. C'est juste un mot. Facebook est déjà utilisé pour former des couples. Tout à fait. Justement, dans la tartine, on parlera d'une plateforme de rencontre à laquelle vous ne vous attendez pas. Je tease un petit peu. On continue dans les news et enfin, on va avoir une loi visant à protéger les enfants influenceurs. On le sait, hein, il y a eu beaucoup de bad buzz, si vous suivez un peu sur YouTube, des chaînes qui mettent des enfants en avant, qui déballent des cadeaux. C'est aujourd'hui, alors les gens qui me disent, Jérôme, quand tu nous dis que 60% des visionneurs de YouTube ont moins de 13 ans, j'ai du mal à te croire. Bon, alors, vous voulez une preuve ? Parce que c'est un chiffre qu'on ne peut pas donner officiellement, mais vous voulez une preuve. Allez voir quelles sont les chaînes qui font le plus d'audience au monde. Eh bien, le plus d'audience, c'est des chaînes de déballage de jouets, de Kinder Surprise et toutes ces merdes, où des enfants font des unboxings de jouets en poussant des petits cris aigus avec leur papa derrière qui leur dit « Dépêche-toi, on a 10 vidéos à faire aujourd'hui ». J'exagère un peu, mais à peine, et on s'est beaucoup offusqué effectivement sur YouTube de ce qui s'apparente quand même à de l'exploitation d'enfants, avec des enfants qu'on a vu pleurer parce qu'ils n'avaient pas envie de faire des vidéos ce jour-là, avec le père qui disait « Hé, hein, vas-y ». Donc justement, l'Assemblée s'est penchée sur le cadre légal des enfants influenceurs et de leurs vidéos sur Internet. En effet, cette pratique... ne serait régi par aucun texte spécifique et les députés présents ont finalement adopté à l'unanimité le texte proposé. Il faut savoir que le travail des enfants est très, très encadré. Moi, pour avoir travaillé dans la publicité et avoir fait des pubs où, par exemple, on avait des enfants mannequins, je peux vous dire que c'est ultra, ultra réglementé le travail avec les enfants. C'est des horaires extrêmement précis. On n'a pas le droit, et tant mieux, de faire ce qu'on veut. Et l'argent qui est destiné aux enfants et c'est justement d'ailleurs ce qu'ils vont adopter, c'est de l'argent qui est bloqué, etc. Effectivement, ce qui est dans le viseur de l'Assemblée, c'est le cas des parents peu scrupuleux qui touchent des sommes qui leur permettaient de cesser toute autre activité, de faire travailler leur enfant. À l'avenir, les rémunérations perçues par les enfants seraient comme pour les enfants du spectacle, placées à la caisse des dépôts et consignations, et ce jusqu'à leur majorité. Pour les situations ambiguës, il prévoit une double condition, temps passé et recettes engrangées, qui déclencherait un système de déclaration. Enfin, les enfants bénéficieraient d'un droit à l'oubli. Et ça, c'est important. Les plateformes, les moteurs également, seraient contraints de retirer les contenus à la demande des intéressés. Un gamin YouTuber qu'on met à la caméra et qui, à sa majorité, dit « mais j'ai pas envie qu'on ait toutes ces images de moi enfant », il aurait un droit à l'oubli. Merci beaucoup, Arnaud, pour ton super chat sur Vinted. J'ai fait de très belles rencontres. Eh bien, écoute, tant mieux pour toi. Effectivement, c'est quelque chose auquel il faut penser, ces enfants. On leur dit, allez, c'est sympa, viens faire des vidéos sur YouTube. En plus, comme c'est le fantasme de beaucoup d'enfants de devenir YouTuber, c'est assez facile de les pousser. Mais ce n'est pas forcément un choix de vie qu'ils ont fait en leur âme et conscience, en tout cas en étant majeurs. Donc le droit à l'oubli est quand même quelque chose d'assez essentiel. L'Assemblée rappelle que quelques décisions pénales, le non-respect des obligations étant passible de sanctions pouvant aller jusqu'à 75 000 euros. Donc voilà, on va pas citer, hein, on connaît tous des cas comme ça de chaînes qui sont, elles sont d'ailleurs hyper cringe, malaisantes, désagréables à regarder, où on voit des enfants qui se tortillent en poussant des hauts cris, en déballant des jouets. YouTube a un peu pris les devants, hein, avec cette histoire de faire YouTube Kids et de réglementer tout ça, parce que c'est des potentiels bad buzz énormes, hein, aussi. On leur a gâché leur enfance. Alors, attention, dans ce genre de situation, on a vite fait d'être des paysans moyenâgeux en disant « The witch, it's a witch !» Il ne faut pas oublier aussi, pour le voir d'ailleurs dans des couples d'amis, la pression que certains enfants peuvent mettre à leurs parents pour faire du YouTube. Ils veulent absolument faire du YouTube. Et des parents, pour éviter que leur enfant fasse du YouTube dans leur dos, où ils surveillent, et effectivement, ils les aident à monter la chaîne, pour justement encadrer ça, éviter les débordements. Donc attention à ne pas juger trop vite non plus. Il y a des enfants qui sont très tenaces, il y a des enfants qui sont très capricieux. Quand un enfant veut quelque chose, les parents comprendront ce que je veux dire. Donc, c'est bien qu'il y ait un cadre réglementaire. Après, effectivement, j'ai envie de dire, les parents qui monétisent la chaîne de leur enfant, c'est déjà une autre démarche que de ne pas la monétiser. Hein, soyons bien clairs là-dessus. Pour les questions qui n'ont rien à voir avec les articles, My César, tu me les poses en fin d'émission. Il y aura un camp de fac et c'est fait pour ça. Je continue dans les articles du jour. On va parler de Xiaomi. Xiaomi qui a annoncé le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Alors pour l'instant, c'est des annonces pour la Chine. Pour cause d'annulation du Mobile World Congress, les annonces européennes seront plus tard. Mais on peut quand même en parler. Le Mi 10 et le Mi 10 Pro avec des fiches techniques effectivement assez bavante, surtout quand on regarde le prix, mais justement, c'est le prix dont on a beaucoup parlé, parce que très nettement, Xiaomi a augmenté le prix de ses smartphones. On n'est plus dans des prix complètement fous comme les autres années. Je vais parler effectivement tout de suite du prix, puisque le Mi 10 démarrera à 3999 yuan, hein, c'est pas des euros, ça donnerait 527 euros, et pour le modèle Pro, ça commencerait à 690 euros. Voilà, pour mettre en parallèle, jusqu'ici, le Mi le plus cher qui était sorti, c'était le Mi Note 10, il était à 550 euros. Donc, on n'est vraiment plus dans les prix entrée de gamme, on arrive déjà dans des prix milieu de gamme. Pourquoi Xiaomi prend ces décisions-là? Ça, je vous avais prévenu. Hein. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. À tous ces gens qui étaient là, oh, ces smartphones chinois à des prix incroyables pendant ce temps-là, il y a Samsung et Apple qui nous volent, mon Dieu. Je vous avais dit, attendez un petit peu, parce que pour l'instant, les constructeurs chinois sont dans de la prise de part de marché. Ils font quasiment zéro marge. Mais il y a un moment, une entreprise, il faut bien qu'elle gagne un peu de la thunasse. Sinon, ça ne s'appelle pas une entreprise. Donc aujourd'hui, eh ben, ils ont décidé d'augmenter leur marge. Voilà, Xiaomi a réussi à rentrer dans le marché et à avoir un bon nombre de parts de marché. Là, ils ont un boulevard avec les problèmes que Huawei a avec la distribution internationale. Petite hausse de prix quand même. Il y a une date pour le Mondial World Congress? Non, il n'a pas été décalé. Il n'y aura pas de Mondial World Congress cette année. Donc, les annonces se feront constructeur par constructeur. Non, le but d'une entreprise n'est pas forcément de s'enrichir. Le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. Parce qu'avec le profit, c'est le seul moyen d'investir. Donc, le but d'une entreprise n'est pas de s'enrichir, mais de générer de la richesse. Après, il y a des entreprises qui se goinfrent et qui gardent l'argent, le distribuent aux actionnaires. Mais il y a aussi des entreprises qui grossissent, qui investissent, qui créent de l'emploi, etc. Donc, ne pas toujours voir les entreprises comme des gros méchants qui ne pensent qu'à l'argent. Mais une entreprise, oui, elle pense à l'argent. C'est sa raison d'être. C'est de faire de l'argent. Et pas juste d'être rentable, de faire du profit. Désolé, hein, j'en ai froissé aujourd'hui en disant ça, mais c'est quand même une réalité, en tout cas du monde capitaliste dans lequel on est. Après, il y a d'autres voies possibles que le capitalisme, mais c'est absolument pas le sujet. On revient sur nos Mi 10. Le Mi 10, ça va être intéressant en photo, puisque eux aussi vont jouer dans la cour des 108 mégapixels avec des zooms x10. Alors après, il y aura tout plein de capteurs différents, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, sur le Mi 10 Pro, il y aura aussi ce capteur de 108 mégapixels. Donc, ça peut donner des duels intéressants avec les Samsung à des prix quasiment deux fois moins chers quand même. On va pas se le cacher. Donc, ça va être probablement très, très intéressant de comparer les deux. Est-ce que je le ferai moi? Je n'en sais rien. Je ne veux rien vous promettre. Peut-être, peut-être pas. Ils n'ont pas été avares aussi en termes de puissance, puisque ça va être un Snapdragon 865 couplé à 8 ou 12 Go de RAM selon le modèle. Au niveau batterie, intéressant aussi, il y aura un accumulateur de 4780 mAh. Et pour le Mi 10 Pro, 4500 mAh. Et sur le Pro, justement, il y aura une charge rapide à 50 watts en filaire et 30 watts en sans fil. Et en outre, les smartphones devraient très peu chauffer, puisque effectivement, le refroidissement interne des téléphones sera une solution composée de graphite et de graphène sur toute la surface qui elle-même sera couplée avec une intelligence artificielle et qui aura pour rôle de réguler la température et d'ajuster les performances du téléphone de manière dynamique. Ça va être intéressant à tester, de voir ce qu'ils ont réussi à faire. Ça va être intéressant. Entre une chinoiserie sans rigoler. Encore une chinoiserie 108 mégapixels. Jérôme, tu es sérieux? Tu es intéressé par ce faux débat? Oui, ne serait-ce que pour pouvoir vous dire, lors d'un test, si je l'ai fait, le 108 mégapixels, c'est du marketing, les gars. Ça ne sert à rien. Mais il faut avoir ses chakras ouverts. Peut-être qu'ils sont arrivés à faire quelque chose. Je suis sceptique. 108 mégapixels sur des capteurs petits, je sais très bien les problèmes que ça peut engendrer. Mais il ne faut pas non plus. De toute façon, partez de la définition. Les fiches de spec, ça ne veut rien dire. Les fiches de spec, ça ne veut rien dire. Voilà, retenez juste ça. Les fiches de spec, ça ne veut rien dire. Merci Sandra pour ton super chat. Merci de ta bonne humeur matinale. Mais c'est grâce à vous. Hein. Parce que si vous n'étiez pas là, je suis de mauvaise humeur tous les matins. Vous êtes ma thérapie. Je sens qu'il y en a qui vont m'envoyer des feuilles de sécu. Vous êtes tellement con parfois. On continue dans les news. Les choses s'enveniment justement pour Huawei, puisque les USA montent d'un ton dans le... Moi, j'avais l'impression quand même que les choses s'arrangeaient, mais non. Là, ils ont monté d'un cran. Le parquet fédéral américain a alourdi jeudi son dossier d'accusation contre Huawei, désormais inculpé carrément de vol de secrets industriels, en plus des charges pour fraude bancaire retenues l'an passé. Le nouvel acte d'inculpation, qui remplace en l'étouffant celui déposé l'an dernier, accuse Huawei d'avoir volé des secrets industriels à 6 entreprises technologiques américaines. Donc, quelque part, la traduction, c'est que là, les États-Unis sont en train d'abattre leurs cartes et d'abattre leurs preuves. Parce que lancer des accusations comme ça, s'ils n'ont pas les preuves derrière, ils ne le feraient pas. Donc là, à mon avis, c'est ce qu'on va voir dans les semaines à venir, on va avoir les preuves de ce que les États-Unis disent depuis plus d'un an maintenant. Il contient aussi des nouvelles accusations relatives aux activités présumées de Huawei avec des pays soumis à des sanctions américaines comme l'Iran et la Corée du Nord. Cet acte d'inculpation brosse un portrait accablant d'une organisation illégitime manquant à la moindre considération envers la loi. C'est le communiqué du président de la commission du renseignement du Sénat américain, Richard Burr, et son vice-président Mark Warner. Donc on est dans une étape importante hein, de cette histoire, puisque plutôt que d'adoucir les trucs, là, les Américains, voilà, comme je vous dis, ils mettent carte sur table, et du coup, ils augmentent les accusations. Du coup, Huawei, qui était un petit peu prompte à la réaction en disant « c'est injuste ces accusations », là, pour le coup, ils n'ont pas réagi. Pour l'instant, ils disent rien. On va voir probablement dans la journée s'il y a des réactions. Mais c'est vrai que là, les accusations sont assez graves. Par exemple, Huawei et sa filiale Futureway sont par exemple accusés d'avoir, à partir de 2000, dérobé les codes sources de systèmes d'exploitation pour routeurs, Internet et divers autres éléments informatiques à une entreprise californienne non identifiée. Huawei aurait ensuite vendu aux États-Unis des routeurs identiques, mais moins chers que ceux de l'entreprise américaine concernée, selon l'acte d'inculpation. Donc, à voir. À voir, on attend de voir les preuves, comme, oui, on va faire le parallèle avec les armes de destruction massive. Mais, moi, je vous avais prévenu aussi, attention à ne pas tomber dans l'angélisme de la Chine, dans cette histoire, et de faire de l'anti-américanisme primaire. Si les États-Unis ont réagi contre Huawei, ils avaient quand même des raisons. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont pas bonnes? Tout un débat, et c'est justement ça. Mais de dire la Chine a les mains propres et Huawei surtout a les mains propres, c'était aller un peu vite en besogne. Ouais, alors attention, parce qu'on va me ressortir toujours les arguments. Oui, mais les États-Unis aussi, ils espionnent. Bien sûr, tout le monde espionne tout le monde. Là, on parle de vol de secrets industriels. Je pense qu'une entreprise, pour resituer le débat, parce qu'il faut faire attention à la cristallisation, la vision qu'on a des Chinois, etc. Mais une entreprise A vole les plans d'une entreprise B et commercialise un produit qui est équivalent au produit de l'entreprise A. C'est du vol de secrets industriels, c'est l'espionnage industriel, et c'est interdit. Après, il y a plein de nuances de gris. Il y a des boîtes qui s'inspirent de ce que font la concurrence pour sortir un produit qui a des capacités équivalentes. Mais déjà ça, c'est complètement différent que de voler les plans d'une entreprise et de reproduire quasiment à l'identique le même produit. Donc, c'est des sujets importants, c'est des sujets délicats. Y a plein de nuances de gris, quoi. On a tous les mains sales après un bon repas. Oui, enfin, tu peux manger avec tes couverts, hein. T'es pas obligé de manger avec tes mains, hein. Ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais... Il est prouvé que la NSA aide... allègrement les entreprises américaines. Encore une fois, je prends le parti de personne, hein, là. Je ne suis pas en train de défendre les États-Unis. On n'est pas... il ne faut pas forcément choisir un camp. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui, dans cette histoire, je me méfie autant des États-Unis que de Huawei et des Chinois. Parce que les Chinois ont quand même bien montré qu'ils étaient capables de faire des trucs comme ça. Et ils ne sont pas net en termes industriels sur le copyright et ce genre de trucs. Merci beaucoup Arnaud pour ton super chat. N'oublions pas, l'histoire est un élastique. Hein, ceux qui étaient dans le jeudi VIP hier sauront de quoi on parle. Donc voilà, en tout cas, ça relance cette histoire. Donc on n'a pas fini d'en entendre parler. Et on passe au dernier article, avant de passer à la suite de l'émission. C'est Essential, l'entreprise d'Andy Rubin, qui met la clé sous la porte. Effectivement, il y avait le projet GEM, qui était un smartphone modulaire, qui avait enthousiasmé la communauté Android. Je vous le remontre pour ceux qui ont l'image. C'était ça. Il a été produit, il a été très très dur à distribuer. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est un gros échec commercial. Ils en ont très très peu vendu, Essential. Et il ne verra jamais le jour vraiment, puisque ce que nous dit la communication, c'est que malgré leurs efforts, nous avons porté le projet GEM aussi loin que possible et nous n'avons malheureusement aucun moyen de livrer aux clients. Compte tenu de cela, nous avons pris la difficile décision de cesser toutes nos opérations et de fermer Essential. Je vais le dire à la française, c'est plus facile, j'arrêterai de l'écorcher. Pour les rares utilisateurs du PH1, qui était le premier modèle commercialisé, la mauvaise nouvelle est doublée par l'arrêt du support client de la marque, de la mise à jour de sécurité, qui a été déployée le 13 février dernier, faisant office d'ultime patch. Les développeurs et autres bidouilleurs auront toutefois toujours accès à des ressources proposées par la marque sur GitHub, ça c'est bien déjà, permettant de continuer à faire vivre de manière indépendante le PH1. Ce qui n'a pas aidé effectivement Essential dans leur entreprise, c'est effectivement les bad buzz qu'il y a eu autour et des polémiques autour d'André Rubin, qui est l'inventeur d'Android, ne le rappelons pas. Et notamment, il y a eu du bad buzz sur ses années Google, puisqu'il lui a été reproché des affaires de harcèlement sexuel qui auraient été d'ailleurs étouffées par Google. Bon, tout ça sont des accusations. Il n'est pas coupable tant que... Il n'est qu'accusé, mais ça a créé quand même une ambiance un petit peu bizarre. Ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé, donc c'est la fin pour Essential. On se passera de l'essentiel. Et on va terminer cette section news avec quelque chose que vous attendez tous. Quel est le gagnant de ce vendredi ? D'ailleurs, j'en profite pour dire, Théo, je t'ai enfin envoyé ton code, toi qui as gagné la semaine dernière. Je l'ai fait ce matin. Mais ce matin, nous avons un nouveau gagnant. Est-ce que je l'ai ici ? Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer ? Et ce n'est pas un gagnant, mais bien une gagnante que nous avons ce matin. C'est Annie Roy qui nous dit « Je voudrais gagner un Shadow PC avec le mug Nowtech pour tester sur mon Mac et ma tablette. » Très bonne raison de tester Shadow PC, puisqu'effectivement, ça fait un compagnon assez parfait d'un équipement Apple, le Shadow PC. Donc, tu as gagné, Annie, je t'ai envoyé ton code. Si, comme Annie, vous voulez gagner un Shadow PC, puisqu'il y en a un à gagner toutes les semaines, un mois de Shadow PC gratuit, eh bien, il faut faire exactement comme Annie. Vous composez un tweet. D'abord, il faut follower, effectivement, Shadow_France, leur Twitter, et ensuite composer un tweet comme celui-ci en nous disant pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC, comment vous voulez l'utiliser, etc. Très important de mettre le hashtag Shadow PC et le hashtag Le Mug Nowtech, sinon je ne vous retrouve pas le vendredi matin quand je fais le tirage au sort. À noter également, on en profite pour donner une news autour de Shadow, guettez bien le 19, normalement c'est le 19 février, Shadow va faire tout un tas d'annonces, notamment par rapport à leur retard de livraison sur l'Ultra et l'Infinite, préciser un petit peu les choses, probablement donner des dates, etc. Donc, si vous êtes amateur ou futur amateur de Shadow PC, rendez-vous à ne pas manquer le 19 février. Je n'ai pas l'heure, mais si vous suivez déjà le Twitter de Shadow, il devrait vous donner à quelle heure ça se passe. Tu attends ta config Shadow depuis des mois. Oxymore, si tu as pris un boost, ça ne devrait pas tarder. Il y a même des boosts qui sont activés en avance, là, par rapport à ce qui était annoncé sur leur commande. C'est pour les configs Ultra Infinite qu'il va y avoir du retard. Donc, normalement, attendez les annonces du 19. On pourra développer exactement comment ça va se passer. Voilà, voilà. En tout cas, nous, on remercie Shadow d'être sponsor et toujours présent dans notre émission, de supporter ma tête tous les matins. Et je vous propose qu'on passe à la tartine. On va parler d'amour et on va parler également de World of Warcraft. L'amour peut-il naître dans World of Warcraft? Est-ce que World of Warcraft est finalement pas le meilleur réseau de rencontres qui existe? Je vais prendre aussi vos témoignages de vos rencontres, que ce soit dans World of Warcraft, dans d'autres jeux ou d'autres endroits d'Internet. Vous allez nous raconter vos histoires d'amour et c'est tout de suite dans la tartine. Et la tartine ce matin, effectivement, on va parler d'amour, on va parler de World of Warcraft. Un très bel article, j'ai trouvé, témoignage, pourquoi World of Warcraft est une fabuleuse application de dating. Ceux qui ont joué à World of Warcraft, dont je fais partie, hein, pendant 5 ans, j'ai vraiment beaucoup, trop, joué à World of Warcraft. J'avais même ma propre guilde, hein, je dirigeais une guilde, j'étais sur le serveur Shogal, notre... Alors j'ai eu plusieurs guildes, j'ai oublié le nom de ma guilde, j'avais Toxic, j'avais Apogée, et le dernier nom de ma guilde, je sais plus ce que c'était, j'ai un trou de mémoire, je crois que c'était Toxic, bref, je sais plus, on s'en fout. Tout ça pour dire, c'est un article assez intéressant hein, chez Combini, mais ça reste quand même très intéressant, sur effectivement des témoignages de gens qui se sont rencontrés à travers World of Warcraft et des histoires d'amour notamment qui ont émergé de World of Warcraft, des gens qui se sont mariés, des gens qui se sont rencontrés. Et pour l'avoir vécu, hein, justement, alors moi, j'ai pas rencontré Marion dans World of Warcraft, et puis je vous dirai pas, du coup, si j'ai rencontré... Non. Mais dans ma guilde, et dans mon ancienne guilde aussi, des gens se sont mariés en vrai, après avoir joué, fait des raids, affronté des monstres ensemble. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi... Alors, j'ai un peu perdu de vue quand même... mes amis de l'époque World of Warcraft, mais pendant un certain temps, j'ai continué à voir, même après avoir arrêté World of Warcraft, des gens que j'avais rencontrés. Et ça lance un peu le débat, et j'aimerais en parler avec vous, la chatroom. Les boomers nous disent souvent, et oui, parce que je ne suis pas un boomer, les boomers nous disent souvent, c'est-à-dire mes parents m'ont souvent dit à cette époque-là, mais c'est des amis virtuels, tout ça c'est virtuel, c'est pas des vraies amitiés, c'est pas des vrais amours, les rencontres sur Internet, c'est pas aussi bien que de se rencontrer en vrai. On entend souvent ça. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu tort? Est-ce qu'une rencontre, c'est d'abord une rencontre? Où que ça se passe? Les endroits dits virtuels ne sont pas virtuels du tout, puisque c'est des vrais gens derrière. On n'est pas en train de parler de dating avec une intelligence artificielle. On est en train de parler de deux personnes qui se rencontrent dans un univers virtuel, mais c'est quand même deux personnes de chair et d'os. Et dans cet article, moi, il y a quelque chose qui m'a touché, et je pense que ceux qui ont joué au World of Warcraft comprendront. Une femme raconte qu'effectivement, elle avait l'habitude de se retrouver avec son amoureux, et après ils se sont épousés. Ils se retrouvaient, ils aimaient se cacher sous l'eau, à Baie du Butin. C'est vrai que ceux qui ont joué à World of Warcraft et d'autres MMO et tout ça, moi j'ai des souvenirs, j'ai des cartes postales d'endroits du jeu. Et parfois des endroits pas où il y avait des monstres et tout ça. J'ai le souvenir de ma première maison que j'avais dans Ashran Call, qui est le premier MMO dans lequel j'ai joué. Des gens que j'ai rencontrés. Enfin, voilà, il y a des souvenirs forts. Et quand on entend des vétérans de World of Warcraft ou des anciens de World of Warcraft parler de leurs années World of Warcraft, ils en parlent comme de souvenirs de vacances. Et je pense que, par exemple, en évoquant de se cacher sous l'eau à la baie du Butin, ça doit ramener des souvenirs à certains d'entre vous. Alors justement, je vais prendre quelques témoignages. J'ai rencontré mes meilleurs... Alors, nous dit Thomas, j'ai rencontré mes meilleurs amis que je vois régulièrement dans World of Warcraft, alors que je n'y joue plus depuis de nombreuses années. Voilà. Oxymore qui dit nos amitiés sont parfois plus sincères que certaines amitiés IRL intéressées. Elles sont différentes, ça je l'accorde, mais moi j'ai souvent comparé la solidarité de membres d'une même guilde dans World of Warcraft au type d'amitié qu'on peut avoir quand on fait du sport d'équipe. Si vous avez fait des raids avec des gens, et des raids un peu difficiles, hein, quand on passe des soirées à wiper sur le même boss et tout, ça forge des liens. On a affronté de l'adversité ensemble. Les soirées wipe où on n'arrive à rien, on n'arrive pas à descendre le boss, on s'engueule et tout, c'est des moments forts. C'est ce qu'on peut vivre sur un terrain de foot quand on joue en équipe. C'est des choses qui tissent des liens qui sont quand même très très forts. Hein. Jimmy Lafleur nous dit « J'ai joué à World of Warcraft pendant longtemps, j'étais jeune, mais je me suis fait de très bons amis à l'époque, effectivement. » Est-ce que des gens ont eu des histoires amoureuses dans World of Warcraft ? Squid Gaming, pose-moi la question à la fin de l'émission. Pour l'instant, on est dans un sujet, mais à la fin de l'émission, je fais un fac. Donc, tu pourras me demander comment on fait un live. C'est vrai que quand tu raids high level avec ta guild, c'est vraiment un sport d'équipe. Ah, mais carrément. Moi, j'ai énormément... Alors, je ne faisais pas des raids... Ah, il y a une époque, j'avais quand même une guild, on avait 2 soirs imposés par semaine. Donc, je ne prétendrais pas qu'on faisait du high level, mais on était un peu compétitif, quoi. On allait sur des raids pas faciles. Et ça m'a énormément appris sur le management. J'avais très peu confiance en moi en management. Et de gérer une guilde et de diriger des raids m'a donné beaucoup plus confiance en moi sur certaines capacités que j'ai de management. Parce que ça doit être pour ceux qui ont connu, descendre un boss high level, ça demande une coordination, on dirait un balai. Il faut faire tel mouvement à tel, et il faut tous le faire ensemble. Il y avait des boss, c'était pointu, hein. Il fallait vraiment tous bouger ensemble, côté gauche, côté droit. Faut arrêter les tirs sur tel truc parce qu'il met un debuff à ce moment-là. Ça demandait et on timait ça. Moi, je me souviens, on n'avait pas un métronome, mais il fallait un rythme sur les boss. On se fixait, attention, on passe en phase 2, machin et tout. C'était vraiment un travail de coordination vraiment important. Alors, Lucas qui nous dit, j'ai une copine, le temps d'une soirée sur Garrymod. D'accord. Racontez-moi ouais, vos histoires d'amour. On va étendre, pas que sur World of Warcraft, mais est-ce que vous avez rencontré l'amour, peut-être même de manière temporaire, sur des réseaux sociaux, sur des jeux vidéo, sur autre chose que des sites de rencontres. C'est ça qui m'intéresse. C'est vrai qu'être raid leader, c'est vraiment dur. Et oui, chacun a son rôle. Bah, les heals, les tanks, enfin... Non, mais c'est un bon exercice de management, hein, World of Warcraft, hein. Et je parle de World of Warcraft, mais effectivement, comme nous le dit Lucas, sur LoL ou sur d'autres jeux, ça demande beaucoup de coordination d'équipe, quoi. C'est pas forcément de la justification, hein, technique savoir. Je le dis, World of Warcraft m'a fait du mal à ma vie sociale aussi, à une partie de ma vie sociale. J'ai joué pendant 5 ans à World of Warcraft à une période de ma vie où, par certains aspects, je remercie World of Warcraft d'avoir existé parce que j'aurais peut-être glissé dans des moyens d'échapper à la réalité avec des conséquences plus graves. Je ne nierai pas que j'ai fui une partie de ma vie pendant 5 ans avec World of Warcraft. Ça me permettait d'oublier certaines choses. Donc, ça a été mauvais par certains aspects. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt. J'y jouais trop, beaucoup trop. J'étais obsessionnel. Mais ça m'a apporté aussi des très bonnes choses. Et une expérience de management, des relations. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi sur certains trucs. Squid Gaming, décidément, tu ne comprends pas que les questions, il faut les poser en fin d'émission, hein. Tu es complètement hors sujet. J'ai rencontré ma copine sur LOL et notre premier rendez-vous c'était au ciné pour le film Warcraft. Dommage pour vous, vous avez vu un navet, mais écoute, c'est une belle histoire, Mathieu. Est-ce qu'il y a eu d'autres histoires d'amour qu'on m'a racontées? Une ex sur le chat de discussion sur le WAP, sur le Nokia 33. Ah ouais! Mon cousin a rencontré sa femme sur World of Warcraft. Ils se sont mariés il y a 2 ans et ont un enfant cette année. Belle histoire, Kev. J'ai rencontré des filles sur Code, sur Battlefield 3 et surtout sur PUBG. D'accord. Cool. Écoute, bonne rencontre. J'ai rencontré ma meilleure amie en 98 sur Caramel et je l'ai épousée 10 ans après. Belle histoire, psychopote. J'ai rencontré ma dame grâce à Pokémon Go. Ça compte tout à fait. Tout à fait, ça compte. Bravo à toi, Xati. Il y a eu pas mal de petites histoires dans notre petite team CSGO. Et oui, passer du temps à farmer le ladder à 5... Ça rapproche beaucoup. Non, non, mais c'est clair. Un jeu de poker en ligne, bah, ça marche aussi. Sur Habbo, c'était la mode aussi d'avoir une copine. Oui, alors après, il y avait les faux mariages et tout ça. Molten Core à 40. Ah, c'est un bon souvenir. Enfin, c'est un bon ou mauvais souvenir. Les soirées wipe à Molten Core à 40, c'était relou hein, aussi. J'ai jamais joué à World of Warcraft, mais j'ai 2 amis qui se sont rencontrés via World of Warcraft. Aujourd'hui, ils sont mariés, la maison, 2 enfants. Il n'y a pas à dire, ça rapproche comme toute activité commune, tout à fait. Non, bah, merci en tout cas de nous raconter des belles histoires. Hein. Quand tu te rapproches... Oui, pardon, le micro étant là, on m'entend moins quand je... Mais ma chatroom est plus petite que d'habitude, donc j'ai un peu du mal à vous lire. 6 ans que je suis avec la même rencontrée sur un vieux chat à l'ancienne, d'accord. J'ai rencontré une fille sur QuizUp, mais ça n'a pas duré, écoute. L'amour, l'intensité de l'amour ne se mesure pas forcément en années, non plus. Les passions, ça existe, elles sont parfois éphémères. Un bonjour de Moscou, et ben bonjour à toi. Bonjour à toi, Jack. Coucou, moi j'ai énormément joué à DAOC, Dark Age of Camelot. Ouais, j'y jouais un petit peu, mais j'étais plutôt World of Warcraft et Ashron Call aussi à l'époque. On s'est souvent retrouvés au resto pour des sorties IRL. Moi, je me souviens très bien, il y avait un bar à Paris. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, parce qu'il y avait pas mal de commus MMO qui se retrouvaient. C'était le Requin Chagrin, dans le 13e arrondissement. Et on se retrouvait avec notre guilde assez souvent pour boire des verres là-bas au Requin Chagrin. Ah, c'est des bons souvenirs, ça. Une guilde franco-américaine, on s'est carrément retrouvé à New York une fois. Cool, ça. Super histoire. J'en ai chialé, on se fâchait sur ces jeux. Et maintenant, je me souviens pas d'un seul prénom. Ah, dommage, Vaya. Mais oui, ça pouvait, on pouvait aussi s'engueuler très très fort. Hein. Mais ça prouvait bien que les émotions n'étaient pas virtuelles dans ces jeux-là. Ah oui, je connais ce bar. Tu vis dans le 13e, tout à fait. Je ne me suis pas mis en couple, mais j'ai développé des amis sur Fro, c'était quoi ça, Ragnarok? Et on faisait des conventions ensemble. D'accord. Ouais, non, non, mais c'est... Meilleur ami sur Tinder, on a matché sur l'humour. On n'a pas voulu tout gâcher en allant plus loin. Eh bien, écoute, très bien, Arnaud aussi. Les amitiés, ça compte. Les amitiés, c'est différent de l'amour. Et c'est pas plus ou moins important que l'amour, mais les amitiés, c'est important dans la vie. Hyper important. Perso... L'ancienne ma guilde s'intéresse vraiment ou autre, il s'empêche de raid toute la période du bac pour que je révise. Ça c'est cool, ça c'est cool. Quelle époque le Requin Chagrin, j'y allais. On était des joueurs de Warhammer sur plateau. Ouais, non mais je crois que c'est un peu un repère de Geekos le Requin Chagrin. Pff, moi c'était... C'était, on va dire, 2005, 2006, dans ces eaux-là. Hein. 18 ans et 4 enfants avec ma première compagne sur Caramel. Et depuis 2 ans, nouvelle vie avec la seconde sur Tinder. Écoute, Cédric, hein, on va, hein, voilà, la vie. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous toutes ces belles histoires. J'espère que ça vous a intéressé, hein, ce jour de Saint-Valentin, de faire un sujet un petit peu différent. Moi, ça m'a rappelé des bons souvenirs, hein, de reparler de World of Warcraft. Il y a des moments de World of Warcraft qui sont des moments précieux dans ma vie, des très très bons souvenirs que je chérirai toute ma vie. Et c'est pour ça que je ne suis pas de ceux qui ont arrêté World of Warcraft et qui cracheraient sur l'expérience. J'ai vécu des choses formidables. J'y ai passé trop de temps, c'est une évidence. C'était une addiction. Je le vois maintenant. J'avais des comportements à me lever à 4h du matin pour faire certains, pour farmer parce que c'était le moment où il n'y avait personne. J'avais des comportements excessifs par rapport à ce jeu. C'est pour ça que je ne vais plus sur des MMO, parce que c'est ma tendance d'être un peu excessif. Mais j'ai vécu aussi de très très bons moments. J'ai vécu des amitiés. Moi, personnellement, j'ai jamais fait... Alors, si une ou deux fois j'ai fait des rencontres amoureuses, mais pas des trucs très très sérieux dans les MMO. Sur les rencontres sur Internet, oui, j'en ai fait certaines. Marion et moi, on s'est pas rencontrés à travers Internet, mais d'une certaine façon, on s'est rencontrés grâce à Internet, puisque pour la petite histoire, Marion habitait en coloc avec des filles qui faisaient une émission sur No Watch. No Watch TV, qui était mon projet avant Nowtech. Voilà, pour la petite histoire. Pour ceux qui aiment les petites histoires croustillantes type gala. voilà. Farm le poteau drac perdu dans le temps. Exactement, ouais. Waouh, là, vous me ramenez des souvenirs. Allez, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission. C'est le camp de fac. Et cette fois, vous allez pouvoir me poser des questions et je vais essayer d'y répondre. Toutes les questions sont possibles, sauf celles auxquelles je n'ai pas envie de répondre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est dans les camps de fac. Allez, pour bien attaquer les camps de fac, je me resserre un petit peu de cidre, hein, pour fêter la centième. Et ouais, Jérôme se bourre la gueule au cidre en plein live. Ça va juste se terminer par une bonne diarrhée. Alors, Squid Gaming qui nous demande c'est quand ce genre de live. Alors, le mug, c'est tous les matins de 8h à 9h en live. Mais du lundi au jeudi, ça se passe sur la chaîne secondaire qui s'appelle Nowtech Live. Il n'y a que le vendredi qu'on vient le faire sur la chaîne principale Nowtech, justement pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne secondaire. Donc si le concept t'intéresse de cette revue de presse en partie animée par la chatroom, en tout cas la tartine, eh bien, je t'invite à suivre la chaîne secondaire Nowtech Live. T'as fait des crêpes avec le cidre? Non, mais j'avoue que de boire du cidre me donnerait bien envie de manger des crêpes maintenant. Pourquoi tu gardes l'iPhone 11 au lieu du Pro? Non, j'ai le Pro, hein. J'ai gardé le Pro cette année. C'était l'année dernière que j'avais gardé l'iPhone 10R. L'année dernière, j'avais pas gardé le haut de gamme. Mais cette année, vous voyez, c'est le Pro, hein, que j'ai gardé. Hein. Regardes-tu des animés? Non, c'est pas trop mon truc. Il faut savoir que moi, j'ai passé toute mon enfance aux États-Unis. Donc, j'ai plus une culture comics, super-héros, Marvel, DC, etc. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y avait pas, dans les années où j'y étais, il y avait déjà les animés en France, hein, c'était les débuts de Goldorak, Cobra, Captain Flame, etc. En France. Mais aux États-Unis, il n'y avait pas trop le phénomène. Nintendo, les Pokémon sont arrivés après ma génération aux États-Unis. Donc moi, j'ai vraiment plus une culture, et mon régressif à moi, c'est plutôt les comics. DC, Marvel, Donjons et Dragons, voilà, ça c'était ma période. Quelle est ma langue natale? Alors, ma langue natale, c'est le français, puisque je suis né en France, mais ma langue maternelle, la première langue que j'ai parlé, c'est l'anglais, puisque tout de suite après ma naissance, on est parti aux États-Unis. La caméra de rêve que tu aimerais avoir. Bah, le problème, c'est que, en fait, ma caméra de rêve, ça en serait plusieurs. Il y a... J'ai beaucoup aimé Fuji pour la photo. J'aime beaucoup Panasonic pour certaines choses. J'aime beaucoup les Nikon qu'on a en ce moment, les Z6, pour notamment les couleurs, que je trouve géniales. Canon me manque par certains aspects. Il y avait des choses que j'aimais bien dans Canon et qui me manquent. Olympus fait des super objectifs. Sony ont des performances de ouf. Bon, après, je déteste l'interface, mais ils ont des performances de ouf et ils innovent. Bref, si je voulais résumer un petit peu les choses, je dirais que je trouverais une caméra bien à peu près dans toutes les marques, exception peut-être Pentax. Et encore Pentax, au niveau photo, je n'ai pas essayé. Au niveau vidéo, c'est vrai que ça me... Moi, je cherche toujours des appareils qui font photo et vidéo. Voilà. Ton appareil photo iconique en argentique des années pré-numériques. C'est une très bonne question parce que malgré ce que vous pouvez croire, parce que je suis un papy, je n'ai jamais fait de photo argentique. Je détestais la photo à l'époque de l'argentique. Je n'ai aucune nostalgie de l'argentique. J'en ai fait quand j'étais étudiant et ça me pétait les couilles, pour pas être vulgaire. La photo argentique, c'était long, c'était chiant, c'était salissant. Donc, je n'ai pas... Je me suis mis... Ça va en surprendre plus d'un parce qu'on se dit « Oh, ce papy, il a de l'expérience. Il a dû faire de la photo à l'époque où on avait encore des appareils photo en bois et tout. » Non, je détestais la photo à cette époque-là. Et je ne suis pas de l'époque des appareils photo en bois. Je me suis mis à la photo, vous savez avec quoi ? Je me suis mis à la photo avec Instagram. Hein, ça vous choque, hein ? Ça vous choque ! Où est-ce que j'habitais aux États-Unis ? À côté de Seattle, donc dans l'état de Washington, qui est à l'opposé de Washington. Tu nous fais un petit débrief et ton avis sur les 100 mugs. Ça va être rapide, je suis très content du mug. Voilà, auto-satisfaction. En fait, je suis très content du mug. Il y a encore des choses. De toute façon, rien n'est parfait. Et il y aura toujours des évolutions. Mais c'est un format, on a eu du mal hein, au début, vous aussi. Mais nous, en termes de présentateur, ça a été dur. Il y a encore des trucs à un petit peu polisser. Mais c'est un format où je me sens beaucoup plus à l'aise que Techscope, en fait. Pour tout un tas de raisons. D'abord parce que même si c'est un équilibre difficile, on a trouvé quelque chose de plus équilibré entre le replay et le live. Il faut savoir que beaucoup d'entre vous, et je les salue au passage, nous regardent ou nous écoutent en replay. Et cette communauté-là se sentait un petit peu abandonnée par le côté trop live de l'émission. On cherche l'équilibre entre une bonne interaction avec la chatroom, mais aussi une fluidité qui rend le replay, surtout en audio, plus agréable. Voilà. Est-ce que je vais passer un jour sur Twitch et arrêter on m'a beaucoup posé la question et tu vois le semi-échec, en tout cas le lancement raté, je me prends les pieds dans le tapis et je m'éclate la gueule en bas des escaliers du lancement du live de Webedia, prouve bien une chose, c'est que toutes les plateformes n'ont pas le même langage, n'ont pas le même public. Twitch, j'hésite à y aller. J'ai peur que débarquer sur Twitch, sachant que je ne suis pas du tout gamer, je suis un streamer. Je m'estime un streamer parce que je fais du live depuis plus de 3 ans tous les matins. Donc, je sais ce que c'est qu'un live. Et quand j'écoute Domingo, etc., il a tout à fait raison. On ne s'improvise pas streamer. Le live, ce n'est pas le même exercice que YouTube, ce n'est pas le même exercice que de faire de la télé. On ne peut pas être cuté, on n'a pas une régie pour nous rattraper. Il faut savoir produire du contenu pendant longtemps, c'est de l'endurance. Il faut savoir interagir avec une chatroom qui est certainement la chose la plus difficile. Garder le fil de sa pensée tout en se retournant de temps en temps vers la chatroom. Interagir avec elle, mais pas trop non plus, parce que sinon on passe son temps à la lire. Et puis la chatroom, vous êtes comme... La chatroom, vous êtes comme un kraken. Vous m'attirez sans cesse avec vos tentacules. Vous essayez de capter mon attention et de m'attirer vers le fond et de m'engloutir et de tuer le live. Donc c'est un combat incessant de tous les matins de discuter avec sa chatroom, mais de pas se laisser engloutir par sa chatroom. Désolé, ça doit être le cidre. Hein. C'est Celcidre hein, qui me fait ça. Tout ça pour dire, en même temps, j'ai beaucoup de respect, justement, pour les gamers qui ont fait de Twitch ce qui est Twitch. J'ai peur qu'en débarquant dans ce monde-là, je sois vécu comme un corps étranger. Et vous aussi, d'ailleurs. Parce que je ne pense pas que mon public est très habitué à Twitch. Donc, je ne dis pas non. Je m'intéresse, je regarde. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Tu penses quoi des annonces de Canon avec le R50? Très, très intéressant, là, ce qu'est en train de faire Canon. Enfin! Enfin! Et ceux qui vont dire, ah, Jérôme retourne sa veste après des années. J'ai jamais détesté Canon et écoutez bien ce que j'ai dit chaque fois que j'ai parlé de Canon. Canon me rendait triste. Canon m'énervait. Mon premier appareil était un Canon. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui manquent chez Canon. Mais ils étaient chiants ces dernières années à sortir des appareils en faisant de la rétention technologique. Si enfin avec le R5, ils se lâchent, ils reviennent dans la course, ils foutent un petit tacle à Sony en disant, hey, nous aussi on sait stabiliser un capteur. En plus, on a une monture plus grande. Regarde notre boîtier comme il est joli. Nous, on a de la Color Science que toi, t'as pas trop. Bien, ça relance la concurrence. Ça agite. J'ai plus peur pour Panasonic. Ça va compliquer un peu les choses au niveau de la gamme S1, mais bon. Mais tant mieux. De toute façon, je suis pro-compétition parce qu'on y gagne toujours. Et si effectivement la fiche du Canon R5 se confirme, ça va être un gros pavé dans la mare du monde de la photo-vidéo en 2020. Donc ça va être très intéressant à suivre. Après, c'est sur une certaine catégorie de prix. Il est 9h05. Écoute, Samuel, là on est bien. Il est vendredi. Je propose un petit 9h10, 9h15. On va voir selon la qualité des questions. Alors, le R5, on n'en a pas encore parlé. Désolé, j'ai fait un rototo, mais c'est le cidre. Le R5, on n'en a pas encore parlé parce que pour l'instant, Canon n'a fait que confirmer qu'il était en développement. Ils n'ont pas vraiment aligné la fiche de spec. Donc, on est encore dans des spéculations. Le fait de faire des métrages jeunes, est-ce que c'est une aide pour les études cinématographiques futures? Des longs. Oui, de toute façon, alors je comprends un peu ta question. Tournez. Plus vous ferez d'images, plus vous progressez. Faire des études théoriques sur le cinéma ne sert à rien. Il faut tourner. Faire des images, être obsessionnel là-dessus. Donc oui, ça t'aidera. Avis sur le Sony A7R. C'est le 4 là dont tu parles. Tu voulais parler de la 7S qui va être annoncée ou de la 7R? La 7R, je ne l'ai pas testé. Ça m'a l'air d'être un appareil très bien pour notamment le sport. Sony, j'ai rien contre, mais je ne suis absolument pas spécialiste. Je n'ai jamais eu de Sony en fait. Twitch est diversifié, n'a pas que le gaming. Je sais, c'est ce que tout le monde me dit. Mais l'ADN de Twitch reste le gaming, quand même. Et on le voit, hein, le live, il y a plein de raisons pour lesquelles ça s'est mal passé. Mais pour moi, une des raisons, c'est qu'ils sont arrivés comme un corps étranger. Et ils sont rejetés comme un corps étranger sur Twitch. Ah merde, j'ai plein de questions qui ont sauté là. N'hésitez pas à faire des copier-coller de vos questions, parce que là, il y en a beaucoup hein, ce matin. Jimmy Lafleur, on pourrait avoir un débat, mais la Color Science de Sony en vidéo qui serait supérieure à Canon, je ne suis pas d'accord du tout. Moi, c'est un de mes problèmes avec Sony. J'aime pas les couleurs du Sony. J'ai du mal, les carnations sont toujours un peu verdâtres, ça se rattrape. Et quand tu connais bien ton matos, tu contournes. Mais quand je vois notamment ce que les Nikon Z6 sortent en 8 bits, parce que c'est aussi du 8 bits, c'est comme les Sony, quand je vois ce que les Nikon sortent en carnation, en reproduction de chair, en 8 bits, ouais, Sony, il va falloir qu'ils revoient leur Color Science, quoi. Parce que c'est super beau sur les Nikon, hein. Bonjour Jérôme, je vous suis depuis peu. D'où vous vient cette facilité à converser, cette aisance? C'est une bonne question, surtout que ça n'a pas toujours été le cas. Je dirais que ça fait 10 ans, plus ou moins, que je fais un peu des vidéos, des podcasts. Et c'est une thérapie pour moi. J'étais plutôt quelqu'un pas très doué, justement. Bon, après, j'ai toujours aimé parler. J'ai toujours été un bavard, mais j'aimais pas trop le faire en public. La réponse bateau, ça serait de te dire, c'est le travail, puisque ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. La réponse la plus vraie, ça serait un mélange peut-être d'une appétence naturelle à discuter, plus du travail. Voilà. Quel appareil photo instantané conseilles-tu? Sinon, est-ce que c'est mieux une imprimante photo portable? C'est pas du tout le même geste photo. Les Instax sont très bien. Hein. Après, moi, j'avais testé... merde, comment ça s'appelle? Je suis pas un spécialiste non plus. Je pense qu'avec Instax, tu peux pas faire d'erreur. Les Polaroids, ils sont remis, mais c'est un peu cher. Après, j'ai envie de te dire, méfie-toi des formats trop petits. En Polaroid, c'est un peu frustrant. Donc, je sais que ça coûte plus cher, mais je partirai quand même sur des formats carrés. Mais la démarche Polaroid, il y a un côté surprise que tu n'auras pas avec une imprimante. Donc, ce n'est pas le même geste photographique. Comment tu fais pour avoir une communauté aussi sympa? En général, le chat YouTube, c'est la guerre. L'âge, mon bon monsieur. Mes poils blancs font que les petits jeunes, les 13-10, les 15-18, ils viennent pas chez moi. Je suis trop un pépé pour eux. Après, on a des moins de 13 ans qui nous regardent et il y a des gens très bien. Mais je pense que dès le départ, j'ai eu effectivement une communauté assez mûre qui fait chier d'ailleurs les moins de 13 ans parce qu'ils s'amusent pas sur notre chat en fait. Donc, je pense que ça a aidé. Après, on a des connards aussi, hein, parce que les vieux cons, ça existe. Hein. Yo, Jérôme, dans ta dernière vidéo, tu dis avoir comme langue maternelle l'anglais, mais tu parles beaucoup trop bien le français. Est-ce que tu pourrais parler anglais pour voir si tu m'as pas escroqué? I can't speak English if I want, but I lost a lot of my accent, of my American accent. Et le paradoxe que certains trouvent, c'est que je prononce à la française des mots anglais. Comprenez bien. Quand je suis revenu des États-Unis, j'avais 8 ans. Je suis arrivé à l'école et les Français, les jeunes Français, se sont beaucoup, beaucoup moqués de moi. Je suis arrivé à une époque où il y avait beaucoup d'anti-américanisme en France et je suis arrivé dans une école qui était vraiment dans un village et qui a tendance très, très communiste. Et donc, j'étais le salamerloc. Qui avait fait la guerre au Vietnam et tout ça, enfin, vous savez, comme les enfants peuvent être méchants. Pendant un an, ça m'a complètement bloqué, j'ai refusé de parler le français. Je trouvais que c'était une langue de débile. On m'a fait voir des psys, etc. Et ensuite, le reste de ma vie, on s'est beaucoup moqué de moi quand je prononçais à l'américaine les mots anglais. Oh, c'est trop bizarre comme tu dis le mot, machin. Donc, je me suis mis à caricaturer pour m'intégrer. Je me suis mis à prononcer à la française, donc de manière horrible, les mots anglais. Et donc aujourd'hui, je suis dans un... C'est la merde, voilà. Mais juste pour que vous compreniez, quoi. Alors, aux États-Unis, mes parents m'envoyaient quand même en classe de français parce que mon père savait qu'on allait revenir en France à un moment ou un autre. Même si on avait commencé à entreprendre les démarches pour avoir la nationalité américaine, mon père se doutait bien qu'on allait revenir en France, donc il nous avait mis dans une école où on avait des cours de français. Mais moi, j'étais tout petit, et la première langue que j'ai parlé, même le premier mot que j'ai dit, c'est « cookie ». Vous voyez, hein, la base des problèmes. J'aimais pas beaucoup parler le français. Mes parents essayaient de nous parler français, et je le comprenais, hein, le français. Mais ouais, j'étais un vrai petit ricain, quoi, hein. Tu penses que ça va avoir quel impact l'annulation du Mobile World Congress? Bah, je pense déjà pour Barcelone, c'est pas cool. Pour l'Espagne, après, ça va retarder la sortie de pas mal de produits. Ouais. Avant de dire papa, maman, j'ai dit cookie, hein, quand même. Hein. Voilà, on a des priorités dans la vie. Bonjour Jérôme, as-tu un avis à partager sur le DaVinci Resolve Selve par rapport à Premiere Pro? Le truc, c'est que je pratique pas vraiment ni l'un ni l'autre. Donc, j'ai pas vraiment d'avis. Je suis très Final Cut. D'ailleurs, j'annonce, ceux qui s'intéressent à LumaFusion, LumaFusion a maintenant une fonction d'export dans Final Cut. Donc, très intéressant. Du mini LED sur les prochains MacBook Pro, selon toi? Peut-être. Tu n'utilises pas Premiere Pro, je signale ta chaîne. Non, je suis Final Cut Pro. Tu peux signaler ma chaîne. Avec tous les techos séquestrés en Chine, on devrait avoir toutes les dates de sortie décalées au moins d'un mois. Et encore un mois, t'es gentil, hein. Je pense que ça va foutre un sacré boxon dans la sortie des smartphones pendant les 6 mois, 1 an à venir. Allez, il est 9h15. Putain, j'avais pas vu l'heure. C'était super en tout cas de parler avec vous, la chatroom. Je suis désolé, j'ai pas pu répondre à tout le monde dans la chatroom. N'hésitez pas à suivre. La semaine, on a un peu moins de monde du lundi au jeudi sur la chaîne secondaire. Donc, n'hésitez pas à suivre la deuxième chaîne Naotech Live et à venir de temps en temps au live. C'est le meilleur endroit pour poser vos questions parce que je sais que j'ai pas toujours le temps de répondre sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis devenu Monsieur Question, on me prend pour un catalogue de la FNAC. Bientôt, on va me demander quel modèle d'aspirateur et de machine à laver il faut acheter. Après, je déçois beaucoup de gens parce que quand j'ai pas testé directement un produit, généralement, je m'avance pas trop. Et en même temps, j'en ai pas testé tant que ça, hein, des produits. Hein. Je suis pas un Monsieur Tech qui a tout testé. Hein. J'ai, par exemple, beaucoup moins testé de produits que Pépé Garcia, dans l'absolu. Donc, allez poser vos questions à Pépé Garcia. Lui, au moins, il y répond. Voilà. Il est beaucoup plus sympa que moi, Pépé Garcia. Il répond aux questions. Je sais même pas pourquoi j'existe alors qu'il y a Pépé Garcia. Que je salue au passage en espérant le voir bientôt puisqu'on va se rater à Barcelone puisqu'on n'ira pas. Je sais pas s'il devait y aller d'ailleurs. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se retrouve donc lundi pour un mug du lundi sur la chaîne secondaire Naotech Live. Soyez bons, soyez forts, profitez bien de votre week-end. Et moi, je vais me terminer ma bouteille de cidre en solo et je vous fais des gros gros bisous. Ciao tout le monde.